France Info.
France Info.
Le cocktail est en effet explosif. Les 2000 personnes interrogées dans ce baromètre affichent à la fois une immense fierté de travailler dans ce secteur et un profond sentiment de manque de reconnaissance. Côté face, 82% disent que leur travail leur apporte des satisfactions, plus de 90% le juste utile pour la société. Mais côté pile, 64% s'estiment insuffisamment reconnus par leur institution et 74% par la société. Problème de rémunération également pour 72% d'entre eux qui jugent que leurs salaires ne sont pas à la hauteur. D'où cette question du sociologue François Sarfati sur le site Chercheurs d'Actu. Je le cite, les enseignants-chercheurs travaillent beaucoup, se sentent peu reconnus et mal rémunérés. Reste à savoir si ce mélange va mener à de la résignation ou bien à de la révolte. C'est également l'analyse de Bruno Andréotti, il est membre du groupe Jean-Pierre Vernant, un groupe d'universitaires qui conteste les réformes, pour qui les ingrédients du burn-out sont réunis, à savoir, je le cite, une haute estime de sa mission, sans arrêt mise en porte-à-faux avec la réalité des moyens dont on dispose pour l'accomplir.
Alors ce jugement vaut-il pour tous ou y a-t-il des différences selon les disciplines?
Il y a des différences. La crise, elle se vérifie avant tout dans les lettres et les sciences humaines et sociales. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les foyers de contestation traditionnels sur les campus se situent dans des universités dédiées à ces disciplines. L'amorosité y domine très nettement avec 72% de personnel concerné. Pour autant, même si elle est moindre, et c'est un peu une surprise, elle domine également dans les autres familles, 61% en droit et sciences économiques, 59% en sciences, technologies et santé. Clivage, en revanche, entre d'un côté les universités et de l'autre les grandes écoles et les organismes de recherche où sur la plupart des questions, les réponses positives sont 10 à 20% plus fréquentes.
Concrètement, Emmanuel, qu'est-ce qui nourrit ce mécontentement?
Il s'exprime dans deux registres. Le premier, il est très quotidien, il est lié aux conditions de travail. De nombreux enseignants-chercheurs se disent écrasés par des tâches administratives ou de gestion sans rapport avec le cœur de leur métier. Ils dénoncent également le fait que les financements récurrents de la recherche diminuent au profit de financements sur projet. Donc pour le dire simplement, je passe trop de temps à remplir des dossiers ou bien à mettre en œuvre des procédures. Je ne passe pas assez de temps à me concentrer sur mes étudiants ou sur ma recherche. Des mots comme pression bureaucratique reviennent en boucle dans la bouche des enseignants-chercheurs.
Et c'est un sentiment ou une réalité?
C'est clairement une réalité. Nos universités manquent cruellement de personnel pour remplir ces tâches. C'est même une des principales différences entre les facs françaises et les facs anglaises ou plus encore américaines. Ceci étant, elles ne sont pas non plus complètement innocentes dans cet état de fait. Quand elles en ont le choix, rares sont celles qui privilégient les recrutements de cadres administratifs à celles d'enseignants-chercheurs. Reste que c'est un vrai problème, de même que le manque de moyens. C'est ce que souligne Jean-Loup Salzmann, le président de la conférence des présidents d'université, même s'il le relativise, je le cite, vis-à-vis des autres fonctions publiques, l'enseignement supérieur et la recherche sont moins touchés par les contraintes de la crise. Notre budget a été sanctuarisé, nous avons des créations de postes, nous sommes protégés à juste titre car l'État est conscient que nous sommes l'antidote de la crise. Il n'empêche cependant que notre premier problème demeure le manque de moyens.
Et le second registre de mécontentement?
Alors celui-ci touche plutôt au fond. Depuis une dizaine d'années, l'État tente de réformer l'enseignement supérieur. Il pousse notamment les établissements à se regrouper. La droite le faisait en prétendant faire émerger une dizaine de pôles d'excellence, une dizaine de champions nationaux capables de triompher dans la compétition internationale. Et cela crée une concurrence de facto à l'intérieur même du pays. La gauche, elle affirme que la concurrence se joue non pas à l'intérieur du pays, mais entre la France et l'étranger. Et elle promeut des formes de regroupements qui sont censés permettre la constitution, non pas de 10, mais plutôt de 25 à 30 pôles. Mais le résultat, au fond, est le même. On demande à des établissements de se réunir sans qu'ils en aient forcément le projet, voire même l'intention. À quoi bon être autonome si on doit toujours passer sous les fourches codines de réformes voulues par l'État, demandent ainsi de nombreux universitaires.
Alors, le gouvernement entend-il ces inquiétudes?
Oui, mais Geneviève Fioraso, la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, demande du temps, je la cite. Ma loi rétablit un équilibre entre crédits récurrents et appels à projets. Elle accompagne les étudiants dans la réussite en premier cycle. Elle préserve la recherche fondamentale et sa liberté. Elle suscite des stratégies de site dans des regroupements souples et pluralistes. Mais poursuit-elle, elle n'a pas encore produit ses effets. Fin de citation. Reste donc à savoir si elle en aura le temps. Selon François Sarfati, ce sont les étudiants qui détiennent une partie de la réponse. Pour l'instant, ils ne se sentent pas concernés par la contestation portée par leurs enseignants. S'ils le devenaient, cela changerait complètement la donne.
Et pour en savoir plus sur ce baromètre, Emmanuel?
Eh bien, franceinfo.fr, rubrique questions d'éducation, et vous trouvez un lien vers ce baromètre et surtout vers les nombreux articles qui l'accompagnent, signés Camille Stromboni avec Sophie Blitman et Baptiste Legout.